VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Niger, les habitants des îles du lac Tchad doivent aller ailleurs pour éviter de nouvelles attaques de Boko Haram. C'est ce que recommandent les autorités locales après l'assaut de l'organisation islamiste nigériane samedi dernier qui a fait au moins 74 morts civils et militaires dans l'île nigérienne de Karamga. Niger toujours, en ce jour de 1er mai, les travailleurs prient dans les lieux de culte au lieu de faire la fête pour manquer leur compassion aux familles des victimes de l'attaque de Boko Haram contre l'île de Karamga. C'est ce qu'ont décidé les syndicats du pays. Le traditionnel défilé du 1er mai, fête du travail, a également été annulé. Au Mali, les combats entre la rébellion à dominante Touareg et l'armée mercredi à Léré, près de la frontière mauritanienne, ont fait près de 20 morts et une vingtaine de blessés, annonce le ministère malien de la Défense. 9 morts, 6 blessés et 6 ennemis capturés côté armée et 10 morts et 10 blessés côté ennemi. Le gouvernement malien et la rébellion s'accusent mutuellement de saboter les laborieux efforts de paix internationaux. Mali toujours, les éléments de la plateforme pro-gouvernementale Gatia ont reçu un accueil triomphal hier à leur retour à Ménaka, près de la frontière du Niger. Ils ont chassé les rebelles du MNLA de la ville lundi et les ont poursuivis en brousse. Le témoignage de Rabat Indounan, un habitant de Ménaka.
Oui, à Ménaka, les Gatia, ils viennent de rentrer avec beaucoup de véhicules, beaucoup d'armes récupérés sur les combattants du MNLA. Il faut comprendre que quand les Gatia est rentré ici le lundi, il y a eu quelques échanges de coups entre eux et le MNLA. Le MNLA a pris la tangente, il est sorti de la ville et ils les ont poursuivis en brousse. Et c'est là qu'il y a eu la chasse aux hommes. Il paraîtrait qu'il y a eu des combats vers là-bas. En tout cas, la ville, on n'a pas senti ça. Mais en brousse, il y a eu des combats. Et témoins, les véhicules, plus de 40 et quelques véhicules, plus beaucoup d'armes. Mais on n'a pas vu les détenus. Ils ont fait des otages, on n'a pas vu. Ils n'ont pas présenté ça à la population. Donc c'est ce qu'ils ont amené pour faire la fête avec la population. Tout Ménaka est là.
Rabat Indounan, un habitant de Ménaka dans le nord-est du Mali. En Mauritanie, imposante manifestation cette semaine à Nouakchott en réponse à l'appel des initiateurs du manifeste pour les droits politiques et socio-économiques des descendants d'esclaves appelés Aratine. Parmi les revendications contenues dans le document, une discrimination positive en faveur de la composante noire des Maures. Le point avec notre correspondant en Mauritanie, Brahim Dia.
Le manifeste propose, je cite, de revoir les règles de partage du pouvoir pour attribuer un quota stable de 40% minimum à la communauté haratine au niveau des institutions constitutionnelles, du gouvernement, des administrations et établissements publics et des postes de hauts fonctionnaires de l'État. Fin de citation. Ce quota de 40% est-il juste? Mohamed Valoul Hendeye est coordinateur du manifeste.
Si on applique l'arithmétique pure et dure, les haratines représentent 57% de la population mauritanienne.
Ce chiffre de 57% est une estimation. En Mauritanie, aucune statistique officielle ne révèle le poids démographique des haratines ou des autres composantes. Parmi les marcheurs, des militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA, ils ont donné de la voix pour demander la libération de leur président, Biramoul Daoul Abeid, et de ses deux co-détenus, Djibi Sow et Brahim Oul Bilal. Le président de IRA et ses co-détenus purgent une peine de 2 ans de prison pour acte de rébellion non armé. Ils ont été arrêtés pendant une caravane contre l'esclavage foncier. Hamadi Oulehbous, militant de IRA Mauritanie.
Notre présence ici entre exactement dans le cadre de la mobilisation générale qui a été enclenchée depuis le 11 novembre. Le refus des haratines de toute la manipulation que l'État fait depuis le 11 novembre, l'arrestation des militants des droits de l'homme.
Les partis politiques de l'opposition mauritanienne ont fortement pris part à cette marche. Idou Moul Mohamed Lemine est du Rassemblement pour la démocratie et l'unité, RDU.
Je suis ici parce que je suis favorable à l'égalité absolue entre toutes les composantes du peuple mauritanien et je suis favorable à ce qu'une solution soit trouvée au problème des inégalités, quelles qu'elles soient.
Les initiateurs du manifeste ont voulu organiser une marche nationale dépassant les clivages politiques. C'est raté. Aucune formation politique de la majorité soutien du président de la République Mohamed Oul Abdelaziz n'a pris part à cette marche. Le gouvernement mauritanien a pourtant adopté en conseil des ministres au début de ce mois un projet de loi durcissant les sanctions à l'encontre des auteurs de pratiques esclavagistes. Ce texte passera très prochainement à l'Assemblée nationale. Ibrahim Dia, à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, poursuite des manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Un militaire a été tué hier, un civil blessé par un officier des services de renseignement à Bujumbura. Des précisions avec Georges Léonard Sagno.
Des manifestants venus du quartier de Moussaga voulaient converger vers le centre-ville. Un officier des services de renseignement a ouvert le feu près d'une barricade, tuant un militaire et blessant un civil. Les protestataires avaient arrêté son véhicule car les agents du Service national de renseignement, rattachés à la présidence, sont très redoutés. Le véhicule a été incendié. Dans le quartier Runanira, 9 opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été blessés dans de nouveaux affrontements avec la police. Par mesure de prudence, le gouvernement a fermé les résidences universitaires officiellement pour des problèmes de sécurité. Un émissaire américain et un envoyé onusien sont à Bujumbura, la capitale, pour tenter de trouver une solution.
RDC, suite à la découverte de 4 fosses communes en territoire de Beni dans l'est du pays, on s'interroge sur le sort du millier de personnes enlevées par les rebelles ougandais des ADF dans la région entre 2010 et 2013. Eddie Sango nous en dit plus.
C'est les porte-parole des forces armées de la RDC, les majors Victor Mansandi, qui a annoncé la mise à jour le week-end dernier des fosses communes dans un camp des ADF.
On a pu comprendre que c'était des ADF tombés sous les accrochages, mais aussi des otages, mais aussi ça peut être des fatigués, des malades et des blessés qui étaient dans les groupes ADF qui ont été exécutés sommairement et enterrés.
Un groupe de la société civile de Beni affirme que sur 947 personnes enlevées par les ADF entre 2010 et 2013, 350 ont été réunies avec leurs familles en 2014, mais on ignore les sorts des autres. Sadiki Moutamo, un paysan musulman, a été enlevé en 2013. Il affirme avoir été jeté en compagnie des 75 autres personnes dans un trou d'où on les sortait pour travailler et recevoir un peu de nourriture. Beaucoup de gens sont morts dans le trou et d'autres ont été libérés. Nous savions qu'ils étaient morts parce que lorsque les ADF étaient venus les chercher, c'était la dernière fois que nous les avions vus, explique-t-il. Par chance, Moutamo a été libéré par un garde ADF qui avait remarqué qu'il était musulman comme les rebelles. Karamba Lusenge Georgine a pour sa part vécu plus d'un an avec les ADF après que ceux-ci eurent tué ses parents et son mari. Elle n'a eu la vue sauve que parce que l'un des rebelles ADF voulait la prendre pour femme. Madame Karamba ne peut s'empêcher de pleurer au souvenir de meurtre auquel elle a assisté. Lorsqu'ils tuaient les gens, ils nous appelaient et nous autorisaient à lever nos voiles de quelques centimètres pour voir les massacres. Et après la mort de chaque victime, nous étions tenus d'applaudir. Les rebelles tuaient leurs otages de manière méthodique après leur avoir lu des passages de la Bible ou du Coran, se souvient Karamba Lusenge Georgine. Une autre femme enlevée par les ADF quand elle avait 5 ans était devenue par la suite combattante dans leur rang. Elle a décrit elle aussi comment les rebelles ougandais des ADF coupaient les oreilles de leurs victimes, leur crevaient les yeux avant de les achever. Selon elle, ces méthodes ont été enseignées aux rebelles par Kassada Kaloumé, le numéro 3 des ADF, tué le week-end dernier par les FRDC dans l'est de la RDC.
Actualité américaine à Baltimore. Les autorités appellent au calme et à la patience alors que la population s'interroge sur le contenu du rapport de la police sur la mort de jeune noir Freddie Gray après son interpellation par des policiers. Selon des experts, le manque d'informations renforce la frustration de la communauté africaine-américaine dans cette affaire. Et pour terminer, conflit au Yémen, l'Arabie Saoudite dit avoir repoussé une incursion des rebelles chiites yéménites houthis hier soir dans le sud de son territoire. Selon Riyad, des dizaines d'assaillants ont été tués par l'armée et l'aviation du royaume wahhabite.
Soyez au cœur de l'info.